Kevin Breton aux commandes Aime l'été pour la prochaine heure, une émission bien chargée que je suis heureux de vous. On va notamment s'entretenir avec un organisme qui fait de l'écoute active auprès de la population estrienne depuis plus de 45 ans pour les personnes aux prises avec différents troubles de santé mentale. Il sera également question de culture puisque ce sera la chronique Sortir de Maxime Despomerleau qui sera en studio dans la deuxième demi-heure de l'émission. On va aussi s'entretenir par téléphone avec Mélissa Boulanger, une massothérapeute qui, à la recherche de soins de massothérapie pour ses enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, a décidé de devenir elle-même massothérapeute. Et finalement, bien, il sera également question d'éducation dans cette émission. Oui, il sera question d'éducation puisque Franck Bouchard sera en studio un peu plus tard pour nous parler bien des 50 ans du Cégep. Hein. Ça fait 50 ans que ce système scolaire est en place au Québec. On va en apprendre un peu plus à savoir bien comment l'intégration des élèves avec différents handicaps s'est passée au fil des décennies à l'intérieur des couloirs du Cégep, dont je m'ennuie parfois, surtout à ce temps-ci de l'année, là, avec une espèce d'odeur de rentrée qui flotte dans l'air. Mais avant tout ça, bien, j'ai quelques articles que notre recherchiste Sylvie et Clotilde également ont trouvé que je vais vous lire à l'instant. Le premier est signé Daphné Dion-Vien, le titre « Service de garde, deux fois plus d'argent pour les enfants handicapés ». Le gouvernement du Québec double le financement accordé aux services pour les élèves handicapés dans les services de garde, a annoncé lundi le ministre de l'Éducation et de la Famille, Sébastien Proulx. Une somme de 2,6 millions est ajoutée, ce qui portera le financement total à 4,7 millions pour l'année 2017-2018. Cette bonification, qui permettra d'aider un plus grand nombre d'enfants, s'inscrit dans la volonté de Québec d'intervenir tôt pour aider les tout-petits à démarrer du bon pied. C'est un investissement, mais ce n'est pas tout le monde qui trouve que c'est nécessairement suffisant. C'est d'ailleurs pas l'opinion de Louise Chabot, qui est la présidente de la Centrale syndicale du Québec, la CSQ, qui a publié cette semaine une lettre ouverte dans le Huffington Post intitulée « On attend toujours des gestes concrets en éducation ». Pour près d'un million d'élèves, elle écrit « Cette semaine marquera la rentrée scolaire. De beaux moments d'apprentissage les attendent. Cependant, certains devront composer avec des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage et ils auront besoin d'appui ». Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour les élèves dans la politique de la réussite éducative que le ministre Proulx a déposée cet été? Bien peu de choses. Saviez-vous que plus de 88% des membres du personnel de l'éducation affirment être témoins quotidiennement de l'insuffisance de services aux élèves en difficulté? Même que 86,5% d'entre eux font le constat que les élèves de leur école ou de leur centre sont en attente de services professionnels ou de soutien auxquels ils ont droit pour les appuyer dans leur apprentissage. Les intervenants et intervenantes de l'éducation sur le terrain sont préoccupés par le manque de ressources pour épauler les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Avec la rentrée scolaire bien entamée, ces inquiétudes sont loin de s'estomper parce que tant la population que le personnel scolaire attend toujours un réinvestissement suffisant de la part du gouvernement dans les services aux élèves. Pas moins de 97% des membres du personnel scolaire s'entendent pour dire qu'un élève va recevoir tous les... s'entendent pour dire que pour un élève, recevoir tous les services auxquels il a droit est une condition essentielle pour sa réussite éducative. Ce n'est pas le cas actuellement. Près de 90% des membres du personnel éprouvent un sentiment d'impuissance en n'étant pas en mesure de répondre aux besoins de plus en plus complexes de tous les élèves. Je rappelle que c'était de la plume de Louise Chabot dans le Huffington Post. Et un autre article qui est cette fois tiré de Radio-Canada en Abitibi-Témiscamingue. Le titre « Pour la première fois, un répit de 48 heures est offert à des proches aidants ». Un répit de 48 heures est présentement offert à une dizaine de proches aidants du Témiscamingue. La table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue a reçu une subvention de la Fondation des médecins spécialistes. C'est la première fois que ce genre d'événement est organisé au Témiscamingue. C'est un article de la journaliste Tania Neveu. Le montant reçu, soit 9 000 $, permet d'organiser un camp de 2 jours pour 9 personnes atteintes de troubles cognitifs. Pendant ce temps, leurs proches aidants peuvent se reposer. Le projet est d'inviter les personnes qui ont une maladie apparentée à de l'Alzheimer ou à d'autres maladies cognitives à venir passer 2 jours avec nous au domaine de la Bégille. Ou Bégilis, ou Bégilis, peut-être, je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est en Témiscamingue. Donc, on est allé faire du ponton, on s'est fait un feu de camp avec des saucisses araignées. Je dois dire que les personnes étaient très heureuses et on espère que les proches aidants ont profité de ce moment-là pour prendre un bon répit, explique la responsable de la table de concertation, Edith Vincent. Les proches aidants sont souvent des membres de la famille qui doivent quotidiennement s'occuper de la personne en perte d'autonomie. Cathy Breton, intervenante à la Société d'Alzheimer pour le secteur Témiscamingue, ajoute que les activités offertes sont bénéfiques pour les participants. On fait des activités qui stimulent beaucoup la mémoire des gens. Finalement, on réalise que juste le fait qu'ils soient en groupe, c'est ce dont ils ont besoin aussi pour se sentir importants et se sentir normaux, dit-elle. Le camp se terminera quant à lui demain en avant-midi. Un dernier texte que j'en profite pour vous lire également tiré de la chaîne ici Première qui a retranscrit une entrevue. Les aidants naturels ont parfois de la difficulté à bien intégrer et à accepter l'importance du répit. Parce qu'on s'occupe d'un être cher, on développe la pensée qu'il faut tout faire, mais il est important de prendre un temps d'arrêt, de se ressourcer, souligne la travailleuse sociale Karine Joly à propos de ceux qui fournissent des soins à un ou plusieurs bénéficiaires en raison d'un problème de santé de longue durée. Souvent, la proximité avec la personne aidée fait en sorte que le proche aidant ne reconnaît plus ses propres limites, remarque Karine Joly. Or, pour les aidants naturels, le répit est essentiel pour maintenir une présence à moyen et long terme auprès de la personne malade. Selon Karine Joly, l'aidant naturel doit accepter que d'autres personnes ou ressources s'impliquent auprès de la personne malade, planifier des moments de répit, prioriser certaines tâches et en déléguer d'autres, prévoir des moments pour la lecture, la marche de santé et les sorties, dormir lorsque la personne malade dort, faire appel aux ressources communautaires et participer à des groupes d'entraide, ce qui favorise l'échange et brise l'isolement. On reçoit maintenant au bout du fil Mélissa Boulanger, qui est massothérapeute et créatrice et formatrice de la technique MEBP, massage pour enfants à besoins particuliers. Bonjour Mélissa.
Bonjour Monsieur Breton.
Vous allez bien?
Oui, ça va bien vous?
Oui, merci. Donc, qu'est-ce que cette technique MEBP là, dont vous êtes la principale créatrice?
C'est une technique de massage que j'ai créée vraiment qui se différencie des techniques de massage plus conventionnelles sur table avec huile. Donc, je voulais vraiment adapter une technique pour les enfants à besoins particuliers. Donc, la séance se déroule au sol, par-dessus les vêtements de l'enfant. Donc, l'enfant n'a pas à se dévêtir. Puis, c'est constitué principalement de pressions profondes. Puis, tout ça est appuyé par une routine visuelle. Parce que la plupart des enfants à besoins particuliers ont besoin de l'appui visuel pour suivre une séquence.
Qu'est-ce qu'on englobe dans le titre « Enfants à besoins particuliers » C'est les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, par exemple, ou surtout?
Oui, ben ça peut être justement un enfant autiste, un enfant ayant un TDAH, les enfants qui souffrent de troubles d'anxiété aussi, qui ont un syndrome de Gilles-Latourette, les enfants aussi qui ont des troubles 10, donc dyspraxie, dyslexie, bon, etc., les troubles 10. Mais aussi des enfants que nous, dans notre jargon, on nomme neurotypiques, donc qui n'ont pas de troubles diagnostiqués, mais qui au quotidien sont pris avec de l'anxiété, que ce soit en lien avec les examens, comme là en ce moment, là, c'est Ouais, c'est un temps très stressant pour les enfants et les parents aussi, là, la rentrée
Avec la
scolaire.
rentrée.
Oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là aussi, on peut appliquer la technique là,
Mais
sans problème.
qu'est-ce qui fait qu'il est nécessaire d'adapter une technique en particulier? Est-ce qu'un massage comme on en reçoit ou comme les enfants sans besoin particulier reçoivent ne pourraient pas faire l'affaire? Qu'est-ce qui fait en sorte que leurs conditions particulières nécessitent une adaptation?
C'est vraiment, il y a beaucoup de points qu'il faut adapter, que ce soit seulement l'approche qu'on a avec un enfant, le jeune enfant autiste en tant que là. On ne peut pas approcher un enfant autiste comme un enfant neurotypique, là, que ce soit par la façon de communiquer avec lui, la façon de le toucher, il faut qu'il voie le toucher qui arrive. Ensuite, le local, il ne peut pas avoir trop de stimulation visuelle. Donc, ça prend vraiment, il n'y a pas d'affiches là, avec des, comme dans les endroits de massothérapie avec des squelettes, des trucs comme ça, là, ça peut
Okay. Ça
vraiment
peut les
créer de
effrayer.
l'anxiété.
Ah ouais.
Oui, c'est ça. C'est surtout important d'avoir justement la routine visuelle. Donc, l'enfant a vraiment un tableau où on voit chaque partie du corps. Donc, l'enfant peut vraiment voir ce qui s'en vient. Donc, ça diminue beaucoup l'anxiété. Ensuite, il y a des fiches pour chaque partie du corps. Puis aussi, on travaille avec un minuteur. Donc, souvent, on utilise le time timer, là, qui est le plus utilisé là, dans le milieu. Donc, l'enfant a un repère de temps. Fait qu'à ce moment-là, pour lui, ça diminue beaucoup l'anxiété. Aussitôt qu'il arrive dans la salle de massothérapie, là, quand il voit ces outils-là, déjà là, ça fait beaucoup baisser l'anxiété.
Donc, de
Puis ensuite,
savoir combien de temps va durer
ouais.
certains massages, ça diminue leur anxiété?
Ben oui, beaucoup, parce que pour un enfant, là, je pense encore à un enfant autiste, là, parce que moi, j'ai un enfant
Oui.
autiste, là, donc je suis vraiment plus dans ça. Donc, le temps, c'est quelque chose de très, c'est très, c'est pas concret, finalement, pour eux. Donc, ça prend vraiment un appui visuel. Quand je dis à mon garçon, on part dans 5 minutes, mais pour lui, là, c'est tellement abstrait, mais ça crée de l'anxiété parce qu'il ne sait pas exactement c'est quoi 5 minutes. Mais quand je lui mets un minuteur, puis visuellement, il peut le voir, oh là, ça change tout, là.
Je comprends.
Donc, fait que c'est important de mettre ça en place là, quand on fait un massage.
Puis, est-ce qu'il y a un âge maximum où on peut commencer à recevoir des soins de massothérapie?
Ben non, pas du tout, là. En fait, la technique s'applique autant aux enfants qu'aux adultes. Là, je vais faire un niveau 2 au courant de l'année prochaine pour les adultes autistes. Donc, mais vraiment, là, spécifiquement pour les adultes autistes. Mais j'ai déjà là, des massothérapeutes là, qui l'appliquent à des adultes là, sans problème. Là, puis c'est vraiment une belle réussite aussi.
Puis est-ce qu'il y a un âge où on peut commencer? Est-ce qu'à un moment donné, il est trop tôt pour commencer des soins de massothérapie ou un enfant de 5-6 ans pourrait aller profiter de ces services?
Ah oui, il n'y a aucun problème. Là. Je vous dirais que 4 ans, c'est bien. C'est bon. À partir de 4 ans, là, moi, je n'ai pas de problème avec ça. En bas de 4 ans, tout dépendant des problématiques aussi, là, ça peut être un petit peu plus difficile pour l'enfant, justement, de rester pendant, parce que normalement, ça dure 30 minutes. Donc, 30 minutes, c'est assez élevé. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je refuse pas de clients nécessairement parce que je veux voir comment l'enfant peut s'adapter et moi m'adapter à lui. Mais on peut proposer un peu moins long comme massage ici, là, ça peut se faire.
Puis qu'est-ce que les enfants en retirent? En fait, c'est quoi les bienfaits physiques et psychologiques de ces séances?
Comme en général, la massothérapie va aider à la gestion du stress puis à réduire l'anxiété. C'est vraiment l'anxiété, là, de toute façon, on trouve de l'anxiété, même quand il n'y a pas nécessairement de troubles d'anxiété, chez la plupart des enfants à besoins particuliers. Donc, déjà là, d'avoir 30 minutes pour, bon, en bon français, là, mettre la switch à off, là. Donc, ça, vraiment, ça leur fait un grand bien. Puis, c'est eux qui vont redemander à revenir souvent aussi. Puis, que ce soit avec les enfants autistes, vraiment leur apporter une meilleure conscience de leur corps. Il y a plusieurs manœuvres qu'on fait là, dans cette pour avoir ces bienfaits-là aussi.
Et ça peut même
Améliorer.
améliorer la qualité du sommeil.
Oui, exactement. Donc, à ce moment-là, on peut enseigner à l'enfant des techniques de respiration profonde, des routines aussi qu'on peut lui enseigner, qu'il peut faire lui-même à la maison avant de se coucher. Puis, on peut cibler à ce moment-là, tout dépendant des massothérapeutes, mais que le massage se déroule en soirée avant le toutou. Donc, ça peut être intéressant aussi.
En terminant, Mélissa, vous avez mentionné que vous avez des enfants eux-mêmes à besoins particuliers et que c'est un
Oui.
peu la bougie d'allumage qui a fait en sorte que vous pratiquiez aujourd'hui ces types de services de massothérapie-là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça a débuté?
Oui, ça a débuté il y a environ 4 ans. On a eu le diagnostic de Émile, qui est mon plus jeune garçon. À ce moment-là, il avait 4 ans et demi. Donc, nous, on ne consultait pas du tout pour l'autisme, là. On pensait qu'il y avait un TDAH, là. Donc, ça a été un gros choc, là. Ensuite, on a eu un an plus tard le diagnostic de notre plus vieux, mais c'est en fréquentant les ergothérapeutes que je me suis rendu compte que les enfants avaient beaucoup de bienfaits au niveau des pressions profondes. Vraiment, là, quand l'ergothérapeute passait du temps pour lui faire, moi, je voyais ça comme des massages, là, vraiment en pression, appuyés. Surtout mon plus jeune garçon, là, il s'est calmé, c'était incroyable. Donc, là, je me suis dit, OK, ben, peut-être que ça existe, là, ce genre de massage-là seulement, là, que je pourrais aller chercher chez un autre professionnel, mais finalement, j'ai trouvé personne qui était spécialisé, là, parce qu'il y en a qui...
Donc, vous avez pris les choses en main, finalement.
Ben oui, voilà, c'est ça. J'ai créé ça.
Si on veut en
Oui.
apprendre plus, on peut visiter votre site internet technique-mbp.com. Merci beaucoup, Mélissa Boulanger, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui de cette technique de massothérapie pour les enfants à besoins particuliers.
Merci, puis juste une petite... c'est technique-mbp.
Oh, et oui, j'ai oublié une voyelle. Technique-mebp.com. De toute façon, on va mettre le lien sur notre page internet de visevoix.com. Encore une fois, merci beaucoup, Mélissa.
Mais merci à vous. Bonne journée.
Nous, on s'en va en musique et on revient tout de suite après avec notre chroniqueur Franck Bouchard.
Thank you.
On se transporte il y a 50 ans, en juin 1967. Le gouvernement donnait le feu vert à la création d'une nouvelle institution qui va vraiment devenir une emblème du milieu académique et scolaire au Québec, les fameux cégeps, une institution qui devait être accessible à tous. Puis bien un petit peu plus tard, avant 1971, on comptait déjà 48 cégeps qui étaient répartis un petit peu partout dans la province. On en entend beaucoup parler ces jours-ci, puisque c'est la rentrée et qui marque la 50e rentrée de ces cégeps. Et on a au bout du fil notre chroniqueur Franck Bouchard pour parler de la création de ces cégeps. Bonjour Franck.
Bonjour.
Parlez-moi de ce grand projet. Tout d'abord, on va s'intéresser bien évidemment à l'intégration des personnes handicapées dans les cégeps, puis aussi à l'accessibilité. Est-ce qu'ils sont vraiment aussi accessibles qu'on le prétend? Mais peut-être dresser un petit portrait de comment ces cégeps ont vu le jour tout d'abord.
Effectivement, comme vous disiez, c'est en 1967 donc que sont nés les cégeps, les collèges d'enseignement général et professionnel. Donc, c'est à l'automne 67 que les premiers cégeps, les 12 premiers cégeps ont vu le jour. C'est une créature, si je pourrais dire, les cégeps du rapport Parent, la commission Parent qui avait révolutionné un peu l'éducation, un peu beaucoup même l'éducation au début des années 60. Donc, l'idée de la commission Parent, c'était de permettre aussi le taux de scolarisation au Québec, mais aussi surtout de favoriser, de démocratiser l'accès aux études, particulièrement l'accès aux études supérieures. À l'époque, en 1967, il y avait très peu de Québécois qui réussissaient à accéder à ces études-là. On parle à peu près 1% de la population à peine. On était la dernière province au Canada en termes de scolarisation, et donc on souhaitait offrir à davantage de Québécois l'accès à des études postsecondaires, l'accès à l'université. C'était pas mal réservé à une élite à l'époque, donc d'où la création des cégeps, un peu pour permettre aux personnes de pouvoir se préparer aux études postsecondaires et d'aller par la suite à l'université. Donc, c'est un peu ça l'idée de départ de la création des cégeps.
Le
succès
a été...
Très rapidement, on a vu effectivement arriver beaucoup de cégeps très rapidement dans les premières années.
Oui, tout à fait. Puis le succès a vraiment été retentissant dès les débuts. Là, il y a comme eu une explosion des inscriptions dès les 10 premières années d'existence des cégeps. Mettons qu'on met en contexte avec la condition et la qualité de vie des personnes handicapées dans les années 60-70. Bon, vous l'avez dit, Franck, déjà pour le Québécois moyen, c'était assez difficile de s'éduquer. On imagine que pour une personne avec un handicap, que ce soit un handicap physique ou visuel, ben c'était doublement ardu.
Effectivement, c'est encore l'époque un peu d'une certaine ségrégation, si je peux permettre l'expression. On est encore dans des instituts spécialisés. Et il a fallu attendre pas mal d'années, même avant que les cégeps vraiment ouvrent leurs portes, à tout le moins se dotent de services pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Il faut remonter au début des années 80, en 82 pour être précis. À l'époque, il y a un groupe d'élèves sourds qui fréquentent la polyvalente Lucien Pagé à Montréal et qui revendiquent de pouvoir poursuivre des études au niveau collégial, revendiquent surtout l'accès avec des services d'interprètes. Et c'est à partir de ces années-là, donc, effectivement, que le ministère a accordé du budget pour permettre d'offrir des services d'interprétation à ces élèves-là. On voit, et c'est comme ça que ça amène à la création en 82 du côté du cégep du Vieux-Montréal et aussi du côté du cégep Sainte-Foy dans la région de Québec à la mise en place des services d'aide et aux services d'aide d'intégration et support aussi aux autres cégeps. Donc, il faut attendre la démocratisation de l'éducation qui était voulue par le rapport Parent des années 60. Il a fallu attendre quelques années avant que les personnes en situation de handicap puissent en profiter vraiment davantage.
Mais waouh, moi, je retiens, Franck, parce que c'est vraiment une page d'histoire du Québec que je ne connaissais pas, à savoir que c'est vraiment grâce à des militants étudiants sourds qu'on
oui,
a finalement bousculé les portes d'entrée des cégeps. Là.
Absolument, c'est des étudiants avec leurs interprètes également qui ont poussé pour que les cégeps disent, écoutez, nous aussi on veut étudier, mais on a besoin d'interprètes. Et donc rapidement, donc d'abord les étudiants sourds, puis par la suite dans les années qui ont suivi, ceux qui ont des déficiences visuelles avec toute la côté des services avec en braille, des choses comme ça. Mm-hmm. Puis après ça, bon, d'autres types d'étudiants handicapés, disons plus physiques, ou organique. Donc, c'est resté un peu pendant pas mal d'années, un peu avec des services qui visaient davantage donc cette population étudiante d'étudiants en situation de handicap. Donc, il a fallu attendre. C'est resté ainsi comme ça où bon, on voyait peut-être, quelques centaines d'étudiants par année comme ça pouvaient accéder aux études au niveau du collégial. Mais à partir de la fin des années 90, début 2000, là, on a assisté à une autre révolution, si on pourrait dire, où là, d'autres types d'élèves aussi ont souhaité étudier. On parle, par exemple, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des troubles d'apprentissage, des troubles de l'autisme.
Donc, on l'appelle la clientèle émergente dans les milieux scolaires.
La clientèle émergente.
Mais est-ce qu'il y aurait également une corrélation à faire entre, bon, cette augmentation dans les années 90-2000? Bon, on parle qu'il y a plus de services, évidemment, une plus grande ouverture, mais aussi, est-ce que je me trompe en avançant qu'il y avait un soutien financier de la part du ministère de l'Éducation qui était plus présent à partir de ces années-là pour aider les élèves avec un handicap?
Il y a eu un soutien financier qui était plus présent, mais ce soutien-là est venu aussi quand même de pressions qui ont été faites des milieux dans les cégeps. Les services d'aide aux étudiants voyaient très bien qu'il y avait des élèves qui cognaient à leur porte, qui avaient des besoins de soutien, mais qui n'étaient pas en moyen de leur offrir ce soutien-là parce qu'ils n'avaient pas de ressources financières, pas de ressources humaines, des gens qui étaient spécialisés pour les aider, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de pression au début des années 2000 pour pouvoir dire au ministère, mais écoutez, nous, on a des élèves qu'on doit aider, qui sont là. Ils ont poursuivi des études au secondaire. Peut-être avec les mesures d'aide qui étaient présentes au secondaire, ces élèves-là ont davantage réussi qu'auparavant. Ils sont maintenant rendus au cégep. Ils veulent étudier, ils veulent réussir, ils veulent peut-être poursuivre une université. Donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, le ministère a commencé effectivement à dire, à reconnaître la présence de ces élèves-là et à donner du soutien financier pour permettre d'offrir des ressources pour pouvoir les aider, les accompagner. Donc, ce qu'on ne voyait pas jusqu'au tournant des années 2000. Là. Ces ressources-là n'étaient pas là. Ces élèves-là étaient peut-être là, mais ils étaient un peu dépourvus, à risque d'échec souvent, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver les ressources pour les aider et les accompagner dans leurs études.
Donc, Franck Bouchard, merci beaucoup pour ce portrait. Beaucoup de chemin a été parcouru.
Oui, beaucoup de chemin.
Beaucoup pour les.
Les dernières statistiques, on parle aujourd'hui de plus de 12 000 élèves en situation de handicap dans les cégeps, comparativement à quelques centaines tout au plus, il y a à peine peut-être une décennie ou 10 ou 15 ans de ça.
Et donc, on voit souhaite
vraiment un énorme chemin qui a parcouru.
Merci beaucoup, Franck.
Merci bien et bonne fin de journée.
Toujours Kevin Breton au micro de M l'été. Maintenant avec moi en studio, notre chroniqueuse culturelle Maxime Des Pomerleaux qui va venir nous parler de Mon père ne voit plus notamment. Bonjour Maxime.
Salut Kevin.
Ça va bien?
Oui, ça va bien toi?
Oui, ça va. Est-ce que comme moi tu es nostalgique de l'époque du cégep? Moi ça m'a donné le goût de me réinscrire au cégep, de parler avec M. Bouchard.
C'est la meilleure époque de ma vie encore à ce jour.
Parce que quand on parle d'effervescence culturelle, je pense que c'est souvent au cégep que les artistes se découvrent en plus. C'est comme un écosystème d'artistes qui se créent au cégep.
Absolument, absolument. Mm-hmm. Donc, c'est cégep for life.
D'ailleurs, même un petit peu plus tard dans la chronique, tu vas nous faire des suggestions de festivals de la rentrée. Mais avant tout, parlons de Mon père ne voit plus qui était présenté à Québec jeudi soir.
Ben en fait, c'est ça. C'est ce soir, c'est un one-shot, c'est une seule performance, Mon père ne voit plus, qui est une création de l'artiste pluridisciplinaire Julie Bernier. Elle est basée au Saguenay et travaille le spectacle vivant, la poésie et les arts visuels et performatifs. L'œuvre, d'une durée de 25 minutes, se veut une marche en soutien à la réalité des personnes non-voyantes du Québec. Et donc, je vais un peu parler de ce concept, Mon père ne voit plus. Julie Bernier veut briser le tabou de l'accident de son père qui l'a rendu aveugle alors qu'elle était enfant. Elle avait à peine 8 ans. Il a eu un accident dans un moulin assis et il a perdu une jambe et perdu tellement de sang que ça a causé une cécité. Et donc, l'œuvre consiste en une descente de piano dans les rues de la ville de Québec. Donc, c'est pas une mince tâche. Et un des pianos est vide, justement, pour que Julie y prenne place. Elle va en sortir à un certain moment.
On parle d'un gros piano à queue, là, c'est ça?
Ben, pas à queue, mais un piano... Okay. Droit, un piano droit. Et donc, dont un de ses pianos a été vidé, finalement, de ses cordes, de son cœur. Elle va y prendre place, elle va en sortir en lançant du brin de scie, en récitant un texte.
Mais quand on parle d'une descente, est-ce qu'on va dire comme vraiment une descente verticale d'un building ou...
Non, dans les rues.
Dans les rues, dans d'accord. Les rues Québec, moi, j'imaginais, après ma barre, un piano à queue qui descendait d'un building avec une femme à l'intérieur puis je trouvais ça assez pété.
Mais ce sera peut-être la deuxième édition, ça pourrait lui donner des idées. Mais donc, je vais parler du trajet dans les prochaines secondes. Mais donc, en fait, cette symbolique du piano, c'est aussi pour symboliser la boîte, ce moulin assis, tout le bois qui y est relié. Il y aura des présences anonymes cagoulées qui vont aider à retenir les pianos dans les rues, qui ne sont pas bloqués à la circulation, je tiens à le mentionner. Oh. Et donc, ils symbolisent les travailleurs qui étaient sur les lieux de l'accident. Aussi, le piano, pour elle, était son moyen de communiquer avec son père lorsqu'elle était plus jeune. Donc, ça a ce lien particulier-là.
Parce que son père jouait de la musique également, ou...
Je ne sais pas, mais c'était elle
les
comme
deux
ça
appréciaient
qu'elle,
la musique.
Qu'elle communiquait, elle jouait du piano. Mm-hmm. Et quand elle était fâchée, elle tapait dessus. Et quand elle était très douce ou qu'elle voulait communiquer quelque chose de plus sentimental, c'était plus doux. Et c'était entre autres parce que le piano était au sous-sol. Il y avait une trappe d'aération qui menait au salon où son père l'écoutait. C'est ce lien qu'elle m'a expliqué en entrevue. Donc, beaucoup de symbolique. Un travail aussi sur l'ambiance sonore pour donner une expérience complète au public. C'est une forme de parade, de procession même, mais animée par ce désir de créer une image poétique pour parler d'une réalité qui est encore très taboue dans notre société.
Et là, parle-moi du trajet maintenant, parce que je vais être dans Québec, dans ce coin-là... Puis je veux pas me retrouver avec un piano qui va faire face à face avec mon auto. Là.
Donc, le trajet, le point de rendez-vous, c'est l'entrée de l'Hôtel Dieu de Québec sur la côte du Palais. On descend donc la côte du Palais jusqu'à la côte d'Inan et ça se termine sur la rue Saint-Vallier-Est. C'est fait en collaboration avec le diffuseur Joker Joker, qui est un regroupement de jeunes artistes pour la promotion de l'art nomade et l'infiltration de l'art dans le quotidien, et aussi en collaboration avec la Fondation des aveugles du Québec.
C'est ce soir à 20h. C'est à ne pas manquer. Puis effectivement, je pense que c'est bien de voir le handicap visuel être transformé et mis en valeur par l'art. Ça va sûrement bien servir de médium de sensibilisation pour les personnes qui ont effectivement perdu la vue. Mon père ne voit plus dès ce soir à Québec, si jamais vous êtes dans le coin que vous voulez passer. J'avais cru comprendre que c'était jeudi la semaine prochaine, mais c'est donc bien ce soir.
Ce soir, 31 août. Et aussi 31 août, un autre événement qui démarre, cette fois-ci en Abitibi-Témiscamingue, le FME, le Festival de musique émergente. Donc, c'est la mecque de la musique indépendante, finalement, au Québec. Alors, ce soir, le grand spectacle d'ouverture sur la scène extérieure des Jardins, il y a La Bronze, Pierre Quenders et A Tribe Called Red, donc dans un de leurs seuls arrêts, en fait, au Québec, parmi leurs tournées nord-américaines. Ce 1er septembre, j'ai choisi quelques salles accessibles particulièrement. Dès le 1er septembre, au Café-Bar L'Abstracto, il y a Sarah Toussaint-Léveillé. Le lendemain, Catherine Leduc et Matt Vézio, dimanche. Il y a Croy aussi qui est en résidence au bar Le Groove le 2-3 septembre. Et finalement, le 3 septembre, le grand spectacle de clôture sur la scène extérieure du lac Kiwanis, Desjardins, on l'aime-tu, avec les artistes qui ont participé à l'album Hommage. Donc, on parle de Fred Fortin, Mathieu, les Sœurs Boulay, Yann Perrault avec podcast, Philippe B, Claude Pelgag, etc.
Est-ce que tu es déjà allé à ce festival, toi?
Non, pas encore.
Pas encore.
En tant que bonne mélomane, je sais toujours dans
mon...
Mais
c'est pas à la porte non plus, hein, donc il y a ça. Là.
Voilà. Mais bon, on est quand même, ça vaut la peine. Et comme d'habitude au FME, en fait, ce qu'il faut surveiller, c'est surtout ce qui se passe en marge des spectacles. Mm-hmm. Regardez les parkings, les cafés, les ruelles où est-ce qu'il se passe des shows improvisés, des regroupements spontanés. Mm-hmm. Et je vais faire un peu de name-dropping sur les artistes qui sont là en fin de semaine aussi. Bloodshot Bill, La Muerte, Larry Kidd, À la Claire Ensemble, Raphaël Dénommé, Le Couleur, Geoffroy, Chocolat, Canaille, Louis-Philippe Gingras, The Deadline, Place to Bury Stanger. Il y a Jason Jabada, Laura Savage et Mon Doux Seigneur qui lancent aussi chacun un album ce week-end. Donc, c'est vraiment à voir.
Mais
à Montréal, on a aussi quelque chose qui s'en vient, nous, la semaine prochaine, du 6 au 9 septembre. C'est le OOMF, le Festival de la rentrée à Montréal qui se passe dans le quartier latin sur la rue Saint-Denis.
Ouais.
Oui, exactement. Et donc, on commence le 6 septembre avec le Gala d'humour de la rentrée. C'est déjà la troisième édition cette année. C'est au Théâtre Saint-Denis et c'est animé par Eddie King et qui présente, entre autres, les humoristes qui sont dans l'émission les cinq prochains. Mm-hmm. Le 7 septembre, dehors, il y a des scènes extérieures. Donc, toutes les activités, en fait, mis à part ce gala de l'humour de la rentrée,
il
toutes
va y
les
avoir
activités
les A-Babies
sont gratuites.
Au programme.
Les, oui, les
A-Babies. Moi, je
A-Babies,
les aime beaucoup, les
A-Babies.
Et
les Deluxe aussi. Kenlo Kraknuk, Fred Fortin seront là aussi. Le 8 septembre, c'est Hologramme. Le collectif hip-hop féminin Bad Nylon, moi, je vais aller les voir certainement, et DJ Windows 98, a.k.a. Win Butler d'Arcade Fire. Et le 9 septembre, il y a Ryan Playground, Man I Trust, Vince Carter, qui est le beatmaker des Dead Obbies, et Corias, donc une soirée plus sous le signe, justement, du hip-hop. Il y a de l'animation de rue, des expos d'art, World Up Battles, un match de Quidditch.
Un match de Quidditch.
Ouais, ouais, ouais. Alors,
sur la Sainte-Catherine directement ou...
ou soit dans les gymnases de l'UQAM. Okay. Mais c'est tout vraiment, ça se passe. C'est vraiment le cœur et la rue Saint-Denis. Mais il y a une trentaine d'activités chaque jour, présentées entre autres par des commerces du coin. Et il y a des espaces aménagés.
C'est toujours très animé, effectivement, dans ce coin-ci.
Et il y a une nouveauté cette année, un parcours sonore, donc du 6 au 9 septembre. C'est pour découvrir les 30 murales qui décorent le quartier latin. C'est grâce à au balado documentaire, l'application gratuite Portrait sonore. Et donc, le matériel requis est seulement un téléphone intelligent.
On télécharge l'application, en fait, puis ça nous parle des différentes murales autour.
Exactement. L'application se nomme Portrait sonore et c'est disponible à la fois pour Apple et pour Android. Et ouais, aussi, la place Pasteur, qui est toujours aménagée par le mobilier urbain créé par les étudiants en design de l'UQAM. Toujours intéressant à découvrir à chaque année.
Génial. En terminant ta chronique, je veux également vous faire part pour les auditeurs, peut-être, qui ont une perte auditive et qui auraient besoin d'un interprète pour participer aux nombreux festivals qui vont avoir lieu dans les prochains jours, prochaines semaines à Montréal. Bien, Kéroul a travaillé en collaboration avec l'APVSL, l'Association du Réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes, dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal, pour permettre l'obtention d'un interprète gratuitement pour les Arts de la rue, Montréal Symphonique, à vue d'eau, la grande tournée. On peut se rendre sur 375mtl.com/programmation pour voir les spectacles pour lesquels c'est possible de se procurer un interprète si on en a besoin. Il suffit ensuite de faire la demande à info@375mtl.com. Merci beaucoup, Maxime, d'être venu nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de suggestions pour ces prochaines semaines. Qu'on soit à Montréal ou ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup à mettre à son agenda.
Absolument.
Dans les prochains jours. Merci beaucoup. Nous, on s'en va en musique. Puis après, eh bien, on va s'entretenir avec la directrice générale de l'organisme Secours Amitié Estrie, Patricia Hamel. C'est un organisme qui vient en aide aux personnes aux prises avec des troubles de santé mentale depuis plus de 45 ans. sans avoir eu, personnellement, avoir eu recours au service de l'organisme dont on va parler dans les prochaines minutes. J'en ai souvent entendu parler pour avoir habité à Sherbrooke pendant 4 ans. Je sais que c'est un organisme, Secours Amitié Estrie, qui vient en aide à beaucoup de personnes. Et il faut dire que, en fait, seulement la santé mentale, c'est une personne sur 5 qui va souffrir d'un épisode de santé mentale quelconque au cours de sa vie. Heureusement, il y a des organismes qui offrent ce qu'on appelle de l'écoute active par téléphone. Et Patricia Hamel, qui est directrice générale de l'organisme, est au bout du fil pour nous en dire plus. Bonjour, Madame Hamel.
Bonjour, M. Breton. Ça va bien?
Oui, ça va. Merci. Tout d'abord, félicitations pour les 45 ans de votre organisme. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement?
Bien oui, bien sûr. Bien, merci. Oui, je suis très fière de vous dire que ça fait 45 ans que Secours Amitié Estrie offre un service d'écoute téléphonique à toute la population estrienne grâce aux bénévoles de l'écoute qui offrent 4 heures d'écoute par semaine entre 8 heures le matin et 3 heures la nuit. Et c'est ça, il y a 50 écoutants bénévoles en ce moment. Et on reçoit à peu près 800 appels par mois, 9700 cette année. Donc oui, c'est un service vraiment essentiel. Et on a cette année un système téléphonique qui nous permet de voir qu'on manque des appels. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis contente de vous parler parce que on profite de ce momentum-là du 45e pour commencer une nouvelle activité de visibilité, de levée de fonds pour pouvoir aller recruter davantage de bénévoles et offrir une accessibilité plus grande aux gens qui ont besoin de parler.
Parce que, heureusement ou malheureusement, vous êtes un peu victime de votre succès, c'est ce que vous nous dites. Puis là, bien, il y a plus suffisamment de bénévoles pour répondre à la demande.
Exactement. Si on veut répondre à tous les appels, on doit recruter environ une quinzaine d'écoutants supplémentaires là, à notre équipe de 50 pour pouvoir organiser une écoute en double et qu'il y ait 2 personnes qui puissent répondre aux appels en même temps entre 8 heures et 3 heures la nuit. Ce qu'on constate, c'est que malgré l'ère de technologie là, dans laquelle on est avec les médias sociaux, il reste quand même plusieurs personnes qui vivent de la solitude ou qui ont besoin de parler de ce qu'ils vivent. Et pas nécessairement parce qu'ils sont seuls, mais des fois, c'est des gens qui ont une famille, un conjoint-conjointe, un travail. Mais à un moment donné, quand tu vis une situation qui perdure dans le temps, tu as besoin d'avoir aussi peut-être une écoute extérieure. Puis comme vous le disiez, l'écoute active, c'est vraiment une technique spécifique qui permet aux gens qui appellent ici à Secours Amitié, qui témoignent souvent, là, ils reçoivent pas cette écoute-là de leur entourage. Nous, on est souvent portés là, à vouloir aider notre ami ou nos amis en leur soumettant
des conseils.
Et l'écoute active, c'est pas ça. C'est vraiment une présence et un accompagnement qui permet à la personne de parler de sa situation, puis de prendre un recul, puis de s'entendre trouver elle-même ses propres solutions.
Donc, dans le fond, c'est de pas se mettre... De l'écoute active, en fait, c'est de poser des questions, mais c'est de pas essayer de juger de la personne ou de dire « moi, à ta place, je ferais ça ». Est-ce que je résume un peu la technique, là?
Exactement, c'est ça, oui. Donc, c'est ça, notre 45e anniversaire. Là, on est en train de composer une équipe d'ambassadeurs et d'ambassadrices qui sont sur le territoire estrien, des gens de tous les milieux, du service le directeur du service de police de Sherbrooke, un propriétaire d'un restaurant. On veut recruter, on veut solliciter 45 personnes qui vont appuyer la mission et nous aider à amasser des fonds pour justement permettre d'augmenter les activités de visibilité et de recrutement.
Si on veut donner de notre temps ou si on est intéressé à devenir bénévole, qu'est-ce que ça prend pour être un bon bénévole qui va répondre? Ça peut quand même paraître comme quelque chose d'assez stressant de s'entretenir par téléphone avec des inconnus qui vivent des périodes difficiles. Est-ce qu'il faut avoir une formation particulière ou c'est pas nécessaire?
En fait, nous, on part du principe que toutes les personnes peuvent devenir bénévoles à Secours Amitié, peu importe le domaine dans lequel les gens ont travaillé. Il s'agit de démontrer un intérêt pour l'être humain. Par la suite, on a toutes des étapes de sélection qui permettent de vraiment identifier si c'est le bon bénévolat pour la personne. Parmi ces étapes-là, il y a des entrevues de sélection, puis il y a une formation à l'écoute active, une formation de base de 18 heures. Puis après ça, les gens, ils sont accompagnés tout le long de leur bénévolat. Parce que, comme vous le dites, là, ça peut sembler stressant, là, mais aussi ça peut faire vivre des émotions à la personne qui reçoit les appels. Mais à ce moment-là, nous, on offre un accompagnement aux bénévoles. Puis on met en pratique les techniques aussi techniques de l'écoute active à travers là, notre accompagnement des bénévoles. Puis on offre la formation continue, on a des activités sociales, des groupes d'entraide. Donc la personne bénévole se retrouve pas seule là, avec le trop-plein de ce qu'elle pourrait recevoir.
On le laisse pas la première journée à ouvrir le téléphone. Là. Il y a quand même un accompagnement qui est donné. Là, tout à fait.
Non, il est accompagné lors des premiers appels, oui. Oui. Les écoutants témoignent là, que ils sont heureux de redonner à la communauté, mais surtout, ça les fait grandir aussi au niveau personnel. Parce que vous savez que on offre le service d'écoute téléphonique depuis 45 ans, mais aussi on promouvoit l'écoute active. Alors, on met sur pied des formations sur mesure pour le grand public qui ne voudraient pas nécessairement devenir bénévoles, mais qui veulent améliorer leur communication.
Aller chercher les compétences pour leur vie de tous les jours. Là.
Oui, c'est ça. On est convaincus que toutes les personnes, peu importe le milieu où est-ce qu'on est, on aurait avantage à améliorer notre communication et puis ça passe par l'écoute.
Tout à fait, parce qu'on a chacun individuellement une responsabilité d'être attentif peut-être à l'écoute des problèmes ou des signes que notre entourage nous donne, puis d'aller suivre une formation, de donner de son temps comme ça à un organisme comme le vôtre, c'est certain que ça va devenir utile dans notre vie de tous les jours après, dans notre quotidien de tous les jours. Là.
Tout à fait, vous avez bien compris, oui.
Puis si jamais on est en Estrie puis qu'on aimerait devenir bénévole pour Secours Amitié Estrie, on procède comment? Est-ce qu'il y a un site Internet?
Oui, on a un site Internet. C'est www.secoursamitiestrie.org. Mais vous pouvez aussi téléphoner pour avoir plus d'informations au 819 823-5400. Et puis, si parmi vos auditeurs et auditrices, il y en a qui auraient besoin de parler, de se confier, peu importe la situation qu'ils vivent, vous pouvez téléphoner sur la ligne d'écoute au 564-2323.
Et c'est jusqu'à 3 heures du matin, on le rappelle. Et c'est pour les gens dans la région de l'Estrie.
Oui.
Merci beaucoup, Patricia Hamel. On va mettre les coordonnées sur notre site Internet, bien évidemment, vusevoix.com. On vous souhaite beaucoup de succès dans les prochains mois. On espère que votre campagne va porter fruit et que des bénévoles vont venir cogner à votre porte dans les prochaines semaines.
Je vous remercie beaucoup, puis au plaisir de vous reparler.
Ça fait plaisir, merci beaucoup. Patricia Hamel, directrice générale de l'organisme Secours Amitié Estrie. On s'en va maintenant à un court intermède musical, puis après, bien moi, je reviens pour quelques nouvelles en rafale.
Perambulando pelo Rio de Janeiro, grande sanfoneiro lá do interior. No meio da rua canto o dia inteiro, pedindo dinheiro pra sobreviver. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, trango e cachixi. Jazz paraíba, jazz de forrozeiro, jazz de brasileiro, dá prazer de ouvir. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, trango e cachixi. Jazz paraíba, jazz sanfoneiro,
ah, se o mundo inteiro lhe pudesse ouvir. Perambulando pelo Rio de Janeiro, grande sanfoneiro lá do interior. No meio da rua canto o dia inteiro, pedindo dinheiro pra sobreviver. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, trango e caxixi. Jazz paraíba, jazz de forrozeiro, jazz de brasileiro, dá prazer de ouvir. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, trango e caxixi. Jazz paraíba, jazz de sanfoneiro, ah, se o mundo inteiro lhe pudesse ouvir. Perambulando pelo Rio de Janeiro, grande sanfoneiro lá do interior. No meio da rua canto o dia inteiro, pedindo dinheiro pra sobreviver. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, triângulo e caxixi. Jazz paraíba, jazz de forrozeiro, jazz de brasileiro, dá prazer de ouvir. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, triângulo e caxixi. Jazz paraíba, jazz de sanfoneiro, ah, se o mundo inteiro lhe pudesse ouvir.
L'émission tire à sa fin. Il me reste quelques nouvelles en rafale à vous lire aujourd'hui. Bien, tout d'abord, on parle souvent d'accessibilité au transport. On souhaite que ça devienne un enjeu majeur, notamment dans la prochaine campagne municipale. Si vous habitez à Québec et que vous trouvez que le réseau du transport de la capitale n'est pas suffisamment accessible ou adapté pour les personnes à mobilité réduite, bien, c'est le moment de vous faire entendre. Du 29 août au 9 septembre, le réseau de transport de la capitale invite la population à venir échanger sur le réseau de l'avenir à l'occasion d'une série de 6 rencontres publiques, une par arrondissement qui se déroulera du 29 août au 9 septembre. Le réseau se rendra dans chaque arrondissement pour présenter sa vision du réseau de l'avenir et obtenir les commentaires de la population. Ce réseau est le fruit de plus d'un an de travail par les professionnels de la planification du réseau. Il s'appuie sur les meilleures projections de la ville en matière de démographie, d'emploi et de déplacement, ainsi que sur les meilleures pratiques en matière de planification des transports. Les changements spécifiques à chaque arrondissement seront expliqués en détail et les citoyens pourront rencontrer les spécialistes du réseau pour échanger et leur faire part de leur opinion. Ceux qui le souhaitent pourront également remplir un questionnaire sur place ou en ligne. Voici les dates, lieux et heures de la tournée. À Cité Limoilou le 29 août à 19h, Les Rivières le 30 août à 19h, Beauport-Bois-Châtel le 5 septembre à 19h, Haute-Saint-Charles le mercredi 6 septembre à 19h, Charlebourg le jeudi 7 septembre à 19h et Sainte-Foy samedi 9 septembre, c'est à 10h. Un communiqué que je tenais absolument à vous lire puisque je l'ai trouvé tout à fait évocateur, frappant, important, nécessaire. Il fait suite à un article, une lettre d'opinion qui avait été publié dans la presse plus. Vous vous en rappelez sûrement, Karine avait un billet pour Metallica. Je vous avais lu le texte en question. Eh bien, Kéroul et Altergo, qui sont deux organismes qui font la promotion de l'accessibilité universelle, ont tenu à réagir à cet incident malheureux. Voici la lettre. La semaine dernière, Karine avait un billet pour Metallica, tel que le mentionne Marie-Pierre Santoir dans un article du 20 août sur la presse plus. Il y a quelques semaines, Christine, Steven, Navy, Jessica et Chris avaient quant à eux des billets pour Oshiaga. Tous ont été déçus par leur expérience musicale au parc Jean Drapeau. Dans le premier cas, les employés n'étaient pas formés pour offrir un service répondant aux besoins de Karine. Dans le deuxième cas, les aménagements accessibles n'étaient pas installés ou alors pas indiqués adéquatement sur le site, ce qui a causé quelques maux de tête aux festivaliers. Kéroul et Altergo ont de la difficulté à comprendre comment de telles situations peuvent se produire régulièrement aux événements organisés par Evenco au parc Jean Drapeau. Kéroul avait pourtant été mandaté l'an dernier pour réviser les plans du réaménagement et la mise en valeur du parc Jean Drapeau. Cet engagement nous a laissé croire que l'accessibilité était au cœur de vos préoccupations, mais les derniers événements prouvent que ce n'était pas tout à fait le cas. qui roule mentionne également qu'une formation gratuite avait été offerte aux différents organisateurs de festivals pendant l'été et que ni un représentant d'Evenco ni un représentant du parc Jean Drapeau n'avaient cru bon s'y présenter. Espérons que pour la prochaine fois, le message sera compris et qu'ils seront de meilleurs élèves. Faire en sorte que ça soit plus agréable pour les festivaliers en fauteuil roulant l'année prochaine à Oshiaga et ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à demain pour une autre émission de M l'été.